France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. S'insurge Figaro dans le mariage qui porte son nom. Quelques mois avant la Révolution française, le héros de Beaumarchais fustige ainsi les privilèges de la noblesse, dont certains seront abolis dans le sang peu de temps après. Hériter, en revanche, se donner la peine de naître et recevoir à un moment de l'argent sans avoir rien fait pour le mériter ou produit aucun travail, est restée une des sources principales d'inégalités en France. Sachez que d'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine que possèdent les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants. Chaque année, ça fait donc 677 milliards d'euros. C'est une note de la Fondation Jean Jaurès, citée par le quotidien Le Monde, qui nous l'apprend. Elle décrit une société où l'héritage pèse plus que le travail dans la possibilité de constituer un patrimoine. Et un niveau d'inégalité de patrimoine et de la fortune héritée qui rappelle celui de la France du 19e siècle. Tout de suite dans les pieds sur terre, à l'heure où on parle beaucoup aussi de la taxe Zucman de 2 euros visant les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, dont une grande partie doit provenir de l'héritage, on écoute une jeune femme, Marlène, qui a trouvé une solution qui peut donner à réfléchir. Voici donc Marlène Millionnaire, enquête de justice, un reportage de Clément Baudet.
Je suis Marlène Engelhorn. J'ai 33 ans, j'habite à Vienne, j'ai toujours habité à Vienne, et je suis héritière d'une fortune, d'une somme énorme, des multimillions d'euros. Je ne dis pas toujours, en fait je ne dis jamais combien c'est exactement. Ça a à faire avec la famille qui veut que je ne parle pas des chiffres exacts. On ne parle pas de l'argent, on l'a. Et cette fortune, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de ma grand-mère qui, elle, l'a héritée de son mari mort, qui l'a héritée de son père, 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 etc. Et l'entreprise qu'il faut aussi nommer pour avoir une idée d'où ça vient vraiment, c'est Boehringer Mannheim, une entreprise pharmaceutique allemande. J'ai grandi dans une villa, on n'appelait pas ça une villa, on disait une grande maison, ce qui est ridicule, parce que le bâtiment à côté avait la même taille, il y avait 6 familles qui habitaient à l'intérieur, et nous on habitait dans un bâtiment de même taille, une seule famille. C'était une vraie villa, et avec un grand jardin, entouré de villas, parce que c'était dans un arrondissement extrêmement riche de Vienne, et je suis passée à la maternelle, et puis après au lycée français de Vienne. Ça coûte cher de pouvoir y aller. Donc à l'époque, mes parents me disaient, quant aux vacances, quant au nombre et le prix qu'on pouvait estimer à travers les cadeaux qu'on reçoit pour l'anniversaire ou Noël, de ne pas divulguer tout, en fait, de cacher un peu le patrimoine à travers des récits qui sont incomplets. Donc c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est pas non plus vraiment honnête. Et c'était dommage aussi, parce que j'avais envie de raconter tout le temps à tout le monde, parce que je trouvais ça excitant et génial en tant qu'enfant. Quand on est enfant, on se rend pas compte de manière très consciente du fait qu'on est extrêmement riche quand on est extrêmement riche. Peut-être on voit, peut-être on a un peu plus que des autres. Et j'avais jamais à me demander la question, est-ce que je peux me payer quelque chose ? C'était juste la question, est-ce que je veux quelque chose ? Et après, bon, les parents, ils décident. Et aussi, j'ai reçu de l'argent de poche. On dirait, ça arrive. Hein. 1 euro par semaine en CP, 2 euros par semaine en CE1, et ça continuait. Et à un certain moment, c'était plusieurs centaines d'euros. Et quand j'ai quitté l'école, c'était carrément un salaire qui est plus large que le salaire brut d'une majorité des gens qui travaillent en Autriche. Quand j'avais 6 ans et je passais la première fois la nuit chez un copain, et il venait de la classe moyenne. Donc il habitait complètement différemment de moi et ma famille, c'est-à-dire dans un appartement déjà, pas dans une villa et pas non plus dans un arrondissement très très riche et privilégié comme moi, mais dans un arrondissement qui dit ouvrier à Vienne. Et donc c'était différent déjà comment on y allait. Sa mère ne nous a pas cherché avec la voiture, mais on y est allé en prenant les transports en commun. Je notais, c'est une différence.
«
comme j'avais aucune conscience de mon privilège, de mon patrimoine quand j'étais petite, j'en avais à peine quand j'étais dans les vingtaines, parce que quand j'avais 18 ans, ma mère, elle me prenait de côté, elle disait « écoute, il faut qu'on parle ». Et elle m'a raconté pour la première fois, en fait, des montants de patrimoine, de ce qui circule un peu dans la famille. Et le premier truc qui était très clair, c'était qu'elle non plus savait exactement combien c'est et qui a quoi. Il n'y a presque aucune transparence aussi à l'intérieur de la famille. C'est très, très important pour les conseillers financiers, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent dire « c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça le statu quo, il faut reproduire le statu quo ». Et donc, c'était très, très facile pour moi de juste le mettre de côté, de me dire « ah, mais c'est le patrimoine de la famille, c'est l'argent de la famille, c'est pas vraiment mon problème, non ?» Je parle pas de la famille, je leur ai promis de ne pas aller en détail. Et quand j'ai commencé mes études, j'avais en fait cette idée que je voulais un jour me faire payer pour lire, parce que j'aime bien lire. Donc j'ai commencé des études de littérature et langue allemande à Vienne. Et je voulais peut-être une fois devenir, je sais pas, éditrice dans une maison d'édition, un truc dans le genre, de lire, de devoir lire les manuscrits et de devoir accompagner le processus pour qu'un manuscrit devienne un bouquin, en fait. Pour les études, quand je suis passée à l'université de Vienne, quand j'avais, enfin, les 19-20 ans, un truc dans le genre, j'avais mon premier appart, qui était beaucoup trop grand, j'avais pas besoin. Je pouvais seulement louer parce que j'avais toujours de l'argent sur mon compte qui apparaissait magiquement, parce que c'était toujours de l'argent de poche. Et j'avais pas besoin de demander des questions quant à comment est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que je peux vivre seule, ou est-ce que je dois, ou je veux vivre en coloc, et est-ce qu'il faut que je bosse à côté de mes études, comment gérer tout ça, il n'y avait pas de questions du tout, du tout, du tout. Quand j'étais étudiante, je ne comprenais pas immédiatement pourquoi les autres étudiants ils bossaient à côté des études, parce qu'ils trouvaient ça super bien pour leur CV. C'est ce qu'on m'avait dit, moi, il faut embellir le CV, il faut mettre un peu d'expérience pour prouver qu'on est un peu hands-on et on fait des choses aussi, bla bla bla. Et donc je croyais que ah, c'est pour ça qu'ils font ça, donc moi aussi maintenant je vais me chercher un petit taf pour à côté, en ayant le privilège de toujours pouvoir quitter ce taf si jamais ça me plaît pas. Et eux, ils n'avaient pas ce privilège, et je me rendais compte, bah écoute, un loyer, ça se paye pas juste comme ça, magiquement, lui-même. Et l'argent n'apparaît pas magiquement sur le compte bancaire comme avec moi, avec mon argent de poche. Et j'ai pris du temps à vraiment comprendre à quel point on était différents, sans me dire que ça voulait dire que j'étais nécessairement en faute. Et donc, je me rendais compte assez rapidement, juste à travers ce contact avec des gens qui habitaient en coloc, et c'était juste très différent de leur rendre visite que de les laisser venir chez moi. Et les premières questions qu'on me demandait, et c'est une des questions à travers laquelle je reconnais immédiatement si une personne a du patrimoine ou non, c'est la question « combien tu payes pour cet appart ?» Une personne qui est riche ne demande pas cette question. Une personne qui est riche ne comprend pas que ça se loue des apparts. C'est bizarre, ça. Bien sûr qu'on sait que ça existe, que des gens doivent payer un loyer, mais la plupart des gens qui sont très riches, c'est leur appart à eux. Et donc c'était bizarre pour moi d'être demandé cette question, et j'avais pas envie de répondre parce que je me rendais compte dans ce moment même, ah, c'est là où je révèle en fait mon privilège, et j'avais pas envie d'être jugée pour, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un m'aurait jugée pour. Mais c'est juste ça, c'est un sentiment qu'on apprend rapidement quand on est élevé riche et privilégié, que tout le monde est toujours envieux et qu'on va te juger et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais être honnête tant qu'au patrimoine, tant qu'au privilège. Et mon expérience que moi j'ai fait après était l'inverse complet. Alors que j'avais décidé, j'avais genre 24 ans, de commencer assez rapidement en fait d'être franche avec mes amis. Au début, j'étais nerveuse, j'avais demandé à un ami, à moi, écoute, tu veux pas venir chez moi, je dois te parler d'un truc, c'est important, je sais pas comment le faire. J'étais un peu maladroite dans ce discours, et on s'est mis sur le canapé, on a commencé à parler, j'ai commencé à lui raconter de l'histoire de famille, du fait qu'on est pas seulement riche au point de vue où je savais qu'il avait une idée, parce que ça se cache vraiment mal, les richesses, pareil. Donc, ces premières conversations, c'était assez facile, en fait. C'était plutôt ma nervosité qui était très, très grande. Et lui aussi, au début, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu es malade? Non, pas vraiment. Mais donc, on était soulagés rapidement. Et ce qui était le plus important, surtout, qu'on se marrait, mais comme des fous de mon patrimoine, de mon privilège, à se moquer royalement de moi, de ma famille, de mes maniérismes. Et qu'en effet, je vis dans une... comme dans un nuage, en fait. On peut un peu comparer, si on compare ce que les gens ils doivent se débrouiller sur Terre, là, ils prennent le vélo ou bien même la voiture. Moi, je suis en jet privé, là, en plein milieu du ciel. Et c'était extraordinaire, j'adore ça, parce que je trouve qu'il est très important de pouvoir rigoler de soi-même et se dire, bah écoute, parfois, je suis vraiment juste ridicule. Mais aussi pour pouvoir dire, et ça, ce qui reste, ce qui n'est pas peut-être ridicule, c'est moi aussi. Et c'est à travers ces discussions... que déjà les amitiés se sont renforcées et que moi j'ai pu finalement arrêter cette obsession névrotique en fait avec le jeu de cache-cache qu'on m'avait appris avec le patrimoine, mais de pouvoir, en anglais on dit own your privilege, de pouvoir vraiment prendre possession du rôle qu'on a. Et ça, surtout aussi, ça a aidé après pour toute cette réflexion, toutes ces conversations, tous ces discours, pour prendre la décision de non seulement avoir ces discours en privé, mais aussi d'aller public et d'avoir ces discours en public, de dire aux médias, écoutez, je suis extrêmement riche, je veux bien être taxé, mais parlez-moi. J'ai appris que j'allais hériter ces millions d'euros en 2019 et ma grand-mère est décédée en 2022. J'étais surprise que j'allais recevoir cet argent de ma grand-mère parce que je croyais que ça allait passer à travers la génération de ses enfants d'abord, mais non, elle a choisi de faire autrement. D'accord, je veux bien. Et il y avait un conseiller financier de ma grand-mère qui avait écrit un email qui allait avoir un héritage. Et comme c'est la tradition dans des familles extrêmement riches, il ne voulait pas dire de quel montant il s'agissait. Donc pendant une très longue durée, je ne savais pas exactement combien j'allais hériter. Il y avait des montants parfois qui circulaient, mais rien de définitif. Bien sûr, pour un héritage de cette grandeur, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a un nombre énorme de gens à travers lesquels ça doit passer. On hérite en fait des contacts et on hérite aussi des conseillers financiers des parents d'habitude. Donc moi, c'était la même chose. Donc à travers les conseillers financiers de mes parents, de ma mère notamment, il y avait tout un processus qu'il fallait suivre et de documents qu'il fallait signer par-ci par-là. Mais c'est très abstrait et c'est par-ci par-là, par email. Et à un moment, on regarde le compte bancaire et boum, c'est là. C'est juste une transaction. Parce que c'est du liquide. Je trouvais ça extrêmement bizarre. Donc, j'ai ouvert mon application sur mon téléphone, j'ai regardé ce chiffre, je me disais, mais c'est malade. C'est juste faux. J'ai montré à des amis, parce que tout le monde trouvait ça trop intéressant d'ouvrir une application de la banque et de voir juste ce nombre énorme qui est écrit là, à niveau, voilà ce que tu as. La plupart des gens qui touchent le patrimoine, et ma famille en fait partie, gèrent ce patrimoine, c'est-à-dire il n'y a pas de question, qu'est-ce qui est assez? Est-ce qu'il y a un surplus qu'on peut redistribuer? Ces questions ne sont jamais posées, c'est presque un sacrilège de poser ces questions. Ou bien de demander d'où est-ce qu'il vient en fait cet argent? Oui, mais c'est de ton grand-père, il a travaillé pour, mais c'est pas vrai, il l'a hérité. Il l'a hérité, comme son père l'a hérité, comme son père l'a hérité. Ce que ma famille sait faire le mieux, c'est hériter. Ça n'a rien à voir avec du travail. Et de poser toutes ces questions, ça se fait juste pas. Et je savais que c'était pas juste. Je savais qu'il aurait pas fallu que j'hérite parce que ça me met dans une position sociale que personne ne mérite. Ni moi, ni quiconque. Personne ne devrait être dans une position privilégiée sociale à travers sa naissance. C'est pas démocratique. C'est pourquoi je me suis fâchée. J'étais juste pas la personne qui est très reconnaissante et qui dit oui, c'est très beau, merci beaucoup, à voix baissée. J'étais là, mais qu'est-ce qui nous prend? Il faut gérer ça différemment et ça va pas la tête. Enfin, je me suis fâchée.
France Culture. Les pieds sur terre.
C'était une fête de la Nouvelle An, je crois. On était tous ensemble dans l'appart de mon pote. Et je connaissais pas encore cet ami à lui. Et je me disais, bon d'accord, je vais lui parler. Parce qu'il semble sympa, juste pour le connaître, parce qu'on a le même pote. Et on commence et on se rend compte rapidement qu'on a des idées politiques très très similaires, qu'on s'entend bien au niveau analyse politique, justice sociale, c'est important. Et à un moment, je lui sors, est-ce que je peux être franche avec un truc qui me préoccupe en ce moment, blablabla. Et là, ouais, écoute, vas-y, pourquoi pas. Et donc, je lui parle de cet héritage énorme et que c'était une grande question pour moi, qu'en faire? Qu'en faire et comment ne pas reproduire mon privilège et blablabla. Et je commence, et j'étais très maladroite dans ce discours, et à un moment, il m'arrête, il dit, écoute, je comprends, c'est tout très bien et tout, enfin, politiquement, on est très similaires, mais on est aussi, on vient de milieux extrêmement différents. Je viens d'une famille ouvrière. C'est quand même beaucoup à devoir digérer dans un discours. Écoute, je dois sortir, je dois fumer une clope. J'ai dit, d'accord, ouf. Donc, il est sorti, il fume une clope, il revient. Il me sort, écoute, je comprends tout et je vois, ce que tu fais, c'est réellement que tu essayes de voir comment faire, comment gérer ça. Et tu es dans une cage, je comprends, mais n'oublie jamais, c'est une cage en or. Et au début, ça faisait mal parce que j'étais là, oh, mais cage en or, ça, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? J'ai presque voulu me fâcher contre cette, pas fâcher, mais être touchée par ça. Mais est-ce que c'était peut-être the audacity? Comment est-ce qu'il ose me dire ça? J'ai tellement réfléchi à mon processus et mon privilège et tout mon pouvoir, mais je sais que je dois renoncer à ce privilège. Et en même temps, mais il avait raison. Très, très rapidement, j'ai commencé à me demander la question, comment est-ce qu'on peut redistribuer d'une bonne manière? Qu'est-ce que c'est une bonne manière? Comment est-ce qu'on fait ce processus? J'ai commencé un stage avec la Guérilla Foundation, où j'ai appris beaucoup. Et l'idée, vraiment, c'était d'avoir une assemblée civique qui est représentative de la population autrichienne qui vit en Autriche et qui a au moins 16 ans. Ça, c'était les seuls critères. Il fallait pas avoir le passeport autrichien, pas la nationalité autrichienne. Je voulais pas reproduire ce biais parce qu'il y a tout plein de gens qui habitent ici, qui bossent, qui payent des impôts, qui font partie de la société. Ils ont jamais le droit de participer. Il faut pas faire ça. Et 16 ans, c'est l'âge de vote en Autriche. C'est pourquoi j'avais choisi 16 ans. J'ai vraiment essayé de copier ce que, à mon avis, est le boulot du gouvernement. À la fin, il y aura 50 personnes qui seront choisies à travers d'un processus d'abord randomisé puis sélectif pour constituer en fait ce groupe. Et voilà, 25 millions d'euros, c'est un budget et c'est à vous de choisir où vous voulez redistribuer ces 25 millions d'euros. Et donc en fait, ces 50 personnes, quand elles ont été choisies, elles avaient 6 week-ends dans 4 mois. Il y avait un budget de 3 millions d'extra pour payer pour le travail de tout le monde, notamment le travail des gens dans l'assemblée civique. Chacun a reçu 1200 euros par week-end. L'assemblée civique a redistribué 24 946 000 euros et ils ont choisi pour cette redistribution 77 organisations différentes, la plupart en Autriche, mais aussi quelques organisations internationales et avec des montants très, très, très différents aussi. Je ne faisais pas partie des week-ends, je ne faisais pas partie de l'équipe organisationnelle. On m'avait virée de tout très rapidement. En fait, moi aussi, je me suis retirée très rapidement. Il y avait un dîner avec la petite équipe en décembre 2023. Et puis après, pour l'assemblée aussi, le premier week-end, j'avais le droit de venir pour, pendant une heure, dire, écoutez, merci de prendre cette tâche de mes mains et merci de me laisser vous rendre le pouvoir et le patrimoine qui aurait dû être le vôtre. De toute façon, merci de votre patience et bonne chance. Et après, on prenait un petit café et après, je me cassais pour les laisser tranquilles, pour qu'eux aussi savent, c'est à eux maintenant. En 2021, On a créé Texmina, on était un groupe de 20 personnes à la fin pour cette assemblée de création avec ce message. Écoutez, je suis riche, je sais que je peux payer les impôts, je veux payer les impôts, taxez-moi. La plupart des gens qui ont lancé Texmina ensemble sont anonymes, mais il y a des gens qui sont héritiers, comme moi. Il y a des gens qui avaient un start-up et qui ont vendu le start-up et qui sont devenus millionnaires à travers cette vente. Avec Texmina, on demande surtout la réintroduction de l'imposition de patrimoine et la réintroduction de l'imposition des héritages en Autriche et notamment la réforme de l'imposition de l'héritage en Allemagne. Il y a tout plein d'exceptions qui en fait rend cette taxation ridicule parce que il y a seulement des gens qui héritent de très peu d'argent qui doivent payer leurs impôts quand ils ont l'héritage. Et les gens qui sont extrêmement riches ne payent effectivement pas. Les réactions que j'ai, surtout quant à ma position politique et publique, sont des réactions exceptionnelles. La plupart des gens, elle a finalement quelqu'un le dit. Finalement, quelqu'un accepte et admet qu'elle est juste là parce qu'elle est plus riche que le reste des gens qui sont là et qu'elle comprend que si on touche à un large patrimoine, on est mais réellement capable de payer des impôts proprement et qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Sauf l'avarice peut-être, mais ça c'est une très très mauvaise excuse. Avec Taxmina, on a une coopération avec les Patriotic Millionaires UK, donc les millionnaires patriotiques du Royaume-Uni si on veut. On était 4 millionnaires qui vont à Davos pour protester le fait que ça s'appelle World Economic Forum, mais c'est en Suisse et c'est pas public. Et c'est ridicule à quel point il y a une concentration de pouvoir, de richesse, de patrimoine et de jets privés. Donc cette année, j'y suis allée encore une fois, je crois que c'était ma 4e fois que j'étais à Davos. Et cette fois-là, on avait acheté des pulls blancs et une collègue qui a dessiné dessus « Tax the Rich ». Et on avait des panneaux et on s'est fait fouiller 4 fois en 5 heures par la police à cause de ces panneaux parce qu'ils croyaient qu'on allait, je ne sais pas ce qu'ils croyaient qu'on allait faire. Avec Taxmina, on va à Davos pour juste pour démontrer que il y a aussi des gens qui détiennent du pouvoir et du patrimoine, qui demandent la transparence, qui demandent que ce soit un forum public et qui demandent aussi la taxation, l'imposition du patrimoine, l'imposition des héritages, mais sérieusement et de manière progressive et pas seulement les modèles extrêmement conservateurs qu'il y a déjà. Je n'ai pas décidé de garder quelque chose pour moi, en fait. Tout le monde croit que j'ai gardé beaucoup pour moi, c'est pas vrai. J'ai en fait un plan de redistribution pour... j'avais commencé avec ça avant l'Assemblée civique. Ça va s'achever en 2026. Et je serai redistribuée presque complètement. J'aurai redistribué le plus proche au 100% possible. Et je vais devoir gagner ma vie à travers mon boulot après, parce que sinon je n'aurai plus d'argent. Depuis l'année dernière, en septembre 2024, je joue dans une pièce de théâtre, elle s'appelle Geld ist Klasse. Ça se traduit, on dirait, l'argent c'est la classe. Parce qu'en allemand, c'est un jeu de mots pour dire qu'en même temps c'est génial, mais en même temps c'est aussi un problème de classe sociale et de différence sociale. Donc je joue dans cette pièce de théâtre, on vient d'avoir notre 20e ou 21e représentation. Et l'objectif de cette pièce est surtout de démontrer à quel point le système fiscal allemand est ridicule, comment il est problématique et dangereux aussi. Et donc, on essaie de sensibiliser le public, mais aussi de rendre un peu la confiance et l'espoir qu'il y a beaucoup qu'on peut faire, qu'on n'est pas seul là-dedans, et que je veux faire partie d'une société où on a tous les mêmes droits. Moi, j'espère que tous les efforts des mouvements de justice sociale vont mener à l'abolissement des privilèges, notamment le privilège d'être né extrêmement riche, parce qu'on n'en a pas besoin dans une démocratie, c'est pas nécessaire. Et donc j'espère que tous les mouvements sociaux ne vont pas perdre espoir. Et pour moi personnellement, pour l'héritage que je vais avoir un jour ou un autre, j'espère qu'il sera taxé, et largement. Et sinon, va falloir recommencer, mais je suis de bon espoir que les choses vont changer assez bientôt. jamais pouvoir réellement sortir de mon milieu parce que je suis toujours attachée à ma famille, à toutes mes connexions que j'ai. Si jamais je me plante face au sol avec un projet pour gagner ma vie, par exemple, ce que je vais faire cette année et l'année prochaine, enfin, et toutes les années qui en découlent, je peux toujours appeler chez à la maison pour demander ah, « Est-ce que quelqu'un peut bien m'aider ?» Je me suis un peu plantée. Donc, je vais toujours être parmi les gens les plus riches et le 1% le plus riche du monde. Et je sais que je vais probablement hériter encore une fois, au moins encore une fois. Enfin, j'espère que non. J'espère qu'il y aura un système de taxation d'héritage qui va faire en sorte que oui, il y aura un héritage et pouf, il sera taxé. Hourra ! Bienvenue les services publics. On verra.
C'était Marlène, millionnaire en quête de justice, un reportage de Clément Baudet réalisé par Benjamin Hu. Merci bien sûr à Marlène ainsi qu'à Julie Lenormand. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.